C'est bon? Qu'est-ce qui veut commencer?
C'est pas toi avec ton coup de gueule là?
Ah oui, c'est vrai, oui.
Hello everybody, welcome to the devdevdev.net best French podcast about .NET development. This is our monthly awesome round table. Today we will talk about how to create beautiful nugget packets. What is inside .NET 8, and is ChatGPT good for developers? And a lot of other things like cute cats, laughing babies, and beautiful women with big So stay tuned, and rendezvous for first pull request.
Bien, et pour cette table ronde du mois de mars 2023, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Campé. Bonjour.
Salut Richard.
Microsoft MVP depuis 2003, catégorie développeur technologie, team leader et distinguished solution architect chez Innovero. J'ai également dans le grand froid canadien, québécois, Gérald Debarré. Bonjour.
Salut. Bon, il fait pas si froid que ça.
Il fait pas si froid que ça.
Peu, ouais. En bas de zéro, mais ça va.
Ouais, moi j'ai 5 degrés, j'ai l'impression que je suis glacé. Enfin bref, donc Microsoft MVP, catégorie développeur technologie depuis 2020 et auteur de l'excellent blog mesiantour.net. Nous avons également Olivier Daran, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors c'est toi, c'est pas un robot là, c'est pas une IA artificielle qui parle?
Non, il avait pas le temps, il a pas pu venir. Je suis obligé d'être là.
Donc, parce qu'il va nous parler un petit peu de ChatGPT, ce genre de choses. Donc, il est Microsoft MVP depuis 2009, développeur technologie, fondateur de la société Inaxos. Je bug toujours sur Inaxos. Consulting, formation sur .NET, C-Sharp, MAUI et WPF. Et on a en guest star, parce qu'il a rien à présenter de spécial aujourd'hui, si ce n'est de râler, comme il le fait très bien sur Twitter, Michel Perfetti. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Microsoft MVP depuis 2006, catégorie développeur technologie, MCT sur Azure et les technologies DevOps et CTO chez Celenza. Alors avant de commencer, moi je voulais pousser un petit coup de gueule. Je suis allé sur Bayonne et je me suis arrêté juste en face du garage Peugeot. Et alors sur le garage Peugeot, il y avait marqué en gros Peugeot et ensuite Professional Center. Alors je sais pas, mais bon, soit ils parlent anglais, soit ils parlent pas anglais. Mais Professional Center, c'est un petit peu tout et n'importe quoi. Alors là, ça devrait être soit Professional Center, soit Centre Professionnel. Mais Professional Center, ça veut rien dire. Tout ça pour dire que j'en ai un petit peu assez de voir un certain nombre de blogs de la part de développeurs francophones, qui se disent francophones, et qui font tout en anglais. Oui, Laurent, mais cache-toi un peu, Laurent.
On se sent vraiment pas visé, là.
Hein. Oui, mais bon, dans certaines parties, ça se comprend, mais c'est un petit peu pénible de voir systématiquement de l'anglais de partout. La plupart du temps, d'ailleurs, quand c'est en anglais, c'est mauvais anglais. C'est digne des traductions automatiques de ce que fait Microsoft sur sa documentation. J'en ai noté une bonne, là, c'est sur Entity Framework 8 Roadmap. Ça a été traduit par Planifier Entity Framework 8. Bon, pourquoi pas. Si je dis ça aussi, c'est parce que... alors, je ne sais pas si au mois de mars, fin mars, vous allez en... Si vous êtes du côté de la Belgique, donc je vous incite tous à aller au Dev Day qui était organisé cette année à Mons. Donc, qui est un excellent événement avec plein de développeurs qui viennent un petit peu de gauche et de droite et qui ont des sessions qui sont vraiment très intéressantes. Et alors, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi le site est en anglais. Bon, ça se passe à Mons. C'est-à-dire en Wallonie, à 5 km de la France, 99% des personnes qui vont être sur place sont des Français, ils parlent français. Et bon, il y a effectivement des speakers qui sont en anglais, mais bon, le site est en anglais, j'ai un peu du mal à comprendre. Donc voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule vis-à-vis de ces articles qui sont en anglais systématiquement. Alors, certainement, on me dira, c'est pour faire de l'audience. Bon, pourquoi pas.
Il n'y a pas que ça, Richard. Moi, en l'occurrence, ça fait plus de 20 ans que je bosse en anglais. Donc, c'est un peu difficile d'écrire en français. À l'époque, sur Techhead Browser, j'écrivais encore en français. Mais depuis, l'anglais, c'est ma langue de tous les jours au niveau professionnel. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus difficile de revenir sur du français, quoi.
Oui, mais pour toi, pour Gérald, qui travaille dans des milieux anglophones, ça, je le comprends. Mais là où j'ai du mal à comprendre, c'est les Français pure souche, les francophones pure souche qui veulent faire ça en anglais. Bon, bref. Alors, ceci dit, on va passer justement de l'autre côté de l'Atlantique et on va demander à Gérald qui, lui, voulait nous parler des packages Nugget.
Ouais, alors, pour te faire plaisir, je vais faire la présentation en français. Ça sera mieux. Ouais, on va rester en français, on va éviter le québécois, c'est peut-être plus... je vais rester avec mes origines quand même. Ouais, donc je voulais parler un peu des packages Nugget, parce que c'est quelque chose qui est central dans l'écosystème .NET aujourd'hui, que quasiment tous les projets référencent au moins un package Nugget, si ce n'est pas une dizaine. Donc c'est quelque chose qui est vraiment crucial, là. Si on regarde un peu les stats sur Nugget.org aussi, on se retrouve avec un peu plus de 300 000 packages uniques. Puis on ne compte pas les versions pour chaque package, là, mais plus chaque package en tant que tel. Donc ça fait quand même un écosystème qui est assez large. Et en fait, quand on se... .NET a apporté beaucoup de nouveautés autour des Nuggets dans les dernières années. Et on se rend compte que certains packages ne profitent pas encore de ces nouveautés-là. Et donc je pense que c'est quelque chose d'important de dire que ça existe déjà et de présenter pourquoi c'est important. Donc c'est un peu ce que je veux faire là dans cette présentation-là. Donc à la fois pour ceux qui produisent des packages, pour essayer de suivre les bonnes pratiques, mais aussi pour ceux qui les consomment. Parce qu'un package qui est bien fait, ça apporte aussi des services pour ceux qui les consomment. Donc c'est ça dont on va parler. Et puis j'aime bien faire un petit rappel quand on parle de Nugget, rapidement sur la sécurité. Juste pour rappeler qu'un package Nugget peut exécuter du code sur votre machine au moment du build, via des targets qui peuvent être mis dans les fichiers du package Nugget. Ça peut aussi rajouter du code à votre application qui va être déployée sur les machines utilisateurs ou sur vos serveurs, donc potentiellement accéder à tous vos secrets. Donc faites attention au package que vous consommez. Et un dernier point, c'est quand vous consommez un package, certes, vous prenez une DLL qui existe, qui a été faite, mais non, c'est dans votre application, donc c'est votre code. S'il y a des bugs, s'il y a des failles de sécurité, s'il y a des problèmes, c'est votre problème. Là. Ça, c'est le petit disclaimer sécurité que les gens ne s'en rendent pas toujours compte. Mais c'est toujours un bon petit rappel. Quand on fait des packages Nugget, maintenant avec le tooling actuel, c'est plutôt simple. On crée une class library, on fait .NET pack, et c'est bon, on a un package Nugget. Le problème de ce package-là, c'est qu'il y a plein de bonnes pratiques qui ne sont vraiment pas dedans et qui ne sont pas enforcées par la toolchain. Désolé pour l'anglicisme. On sait à toi, Richard, maintenant.
Cauchemar.
Ouais, désolé. Je ne vais pas faire ton coup de gueule. C'est ça. Donc, par défaut, on va avoir un package ID. Il y a quelques métadatas qui sont fournis automatiquement. Mais déjà, un des premiers problèmes qui va être réglé avec .NET 8, mais c'est que la DL qu'on vient de compiler, qu'on sent juste .NET pack, elle est en debug et pas en release. Donc, regardez le nombre de packages qui sont sur Nugget.org qui sont compilés en debug. Il y en a quand même quelques-uns.
Ah oui, d'accord. Oui, c'est intéressant ça.
Ouais, c'est en .NET 8, ils ont changé la valeur par défaut pour dire que quand on fait un .NET pack ou un .NET publish, c'est par défaut en release. Enfin. Mais ça. Donc, petite erreur commune qu'on peut voir régulièrement, là. C'est celle-là. D'autres problématiques qu'on va retrouver, c'est quand on arrive sur la page de Nugget.org, il y a. Sont les métadatas qu'on met, Nugget va pouvoir, enfin le site va nous afficher plus d'informations. Par exemple, si on a mis les informations d'un repository, on a un lien pour aller vers le repository qui contient les sources du projet. Si on a mis des informations d'une licence, par exemple MIT ou Apache, whatever, là on a, désolé l'anglicisme encore, on a tout de suite l'information de la licence. Qu'est-ce que c'est comme, est-ce que je peux utiliser le package dans mon contexte? Est-ce que ça match une licence qui est valide pour moi?
ou pas.
La grande majorité des packages n'ont pas de licence. Donc techniquement, on ne sait pas si on a le droit de les consommer ou pas, légalement. Donc c'est toutes ces petites informations-là qui sont importantes. Après, il y a des informations qui sont plus pour la discoverability, donc à savoir mettre une icône, par exemple, ou mettre un README. Le README, c'est quelque chose d'assez récent maintenant, mais on peut directement embedder le README dans le package Nugget, comme ça, il est visible sur la page de nugget.org aussi. Ça, c'est pas mal, toutes les métadatas qui sont... Bah, qui apportent un peu de valeur à votre package. Après, il y a aussi d'autres choses, par exemple, bah, on peut oublier de mettre de la documentation XML. C'est-à-dire qu'on a mis des commentaires XML sur toutes nos méthodes, génial, sauf qu'on ne publie pas le fichier XML dans le package Nugget. Donc au final, on a écrit de la documentation pour rien, parce que les gens, quand ils vont référencer le package, ils vont arriver dans leur IDE, IntelliSense, bah, il n'y a pas le fichier de...
Il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien, donc en fait, bah, on a juste perdu notre temps à écrire des commentaires XML pour rien. Donc c'est... Pensez bien cocher la case Generate Documentation File, mettez-la, cochez-la, même si vous documentez qu'une méthode au final. Enfin, si vous avez 1% de votre code qui est documenté, bah autant publier le fichier quand même. C'est toujours 1% qui ça apporte de la valeur pour les utilisateurs. Donc ça, c'est pareil, c'est des cases qui ne sont pas cochées par défaut. Donc n'hésitez pas à vérifier dans vos projets, être bien sûr de cocher la case. Puis après, il y a des choses qui sont plus importantes principalement pour les packages qui viennent de l'open source. Que ça va être GitHub, GitLab, et n'importe quel autre. j'essaie de me retenir, Richard. C'est ça. Donc là, typiquement, quand vous prenez un package Nugget, bah, souvent, ce sont des librairies, donc il y a une DLL à l'intérieur. Mais en fait, qu'est-ce qui vous garantit que cette DLL-là est bien buildée à partir des sources du projet qui est marqué comme étant bah, dans le package Nugget? On a dit que c'était le projet, le repository, il est à tel endroit sur GitHub. Qu'est-ce qui vous prouve que la DLL qui est dans le package Nugget est buildée à partir des sources? Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on peut garantir ça en fait grâce au fichier de symboles. Donc quand vous publiez les symboles, dans un fichier de symboles, donc les fichiers PDB, on va retrouver beaucoup d'informations. Notamment, on va retrouver la version du compilateur qui a servi à builder. On va retrouver toutes les options de compilation. C'est quoi la version du langage que vous avez sélectionné dans vos options? C'est quoi tous les define que vous avez utilisés? C'est quoi tous les DL qui ont été référencés? Et aussi, c'est quoi tous les fichiers sources qui ont servi au build? Ce qui fait qu'avec toutes ces informations-là, déjà, on est capable de rebuilder la DLL, potentiellement. Selon les options qui ont été choisies, on peut rebuilder exactement la même DLL, ce qui peut être pratique dans certains cas. Mais on a aussi surtout accès aux vrais fichiers sources qui ont permis de builder la DLL. Donc, si jamais il y a un mismatch entre ce que le PDB nous dit et le repository, bah, on sait qu'il y a un problème et qu'on n'est pas en train de consommer la bonne DLL. Et donc, ça peut arriver dans des cas, par exemple, où certains packages et rajoute des informations, par exemple, sur les contributeurs du projet. Dire, par exemple, bah, tel utilisateur, il est sponsor, donc je mets des informations. Ça, c'est du code qui peut être dynamique. On se rend compte que des fois, bah, il manque des fichiers dans le repository qu'on regarde par rapport à ce qui est vraiment utilisé dans la DLL qui est buildée.
Alors, comment tu fais pour vérifier, justement, si ça correspond bien?
En gros, tu prends
le PDB?
Ça, dans le PDB, en gros, une solution qui existe, c'est plutôt simple, qui n'est pas complète, mais qui est plutôt simple. C'est sur le site de Nugget, il y a un petit lien vers le Nugget Package Explorer. Quand vous êtes sur la page d'un package, à droite, il y a Nugget Package Explorer. On peut cliquer dessus, ça ouvre l'application Nugget Package Explorer, mais dans le browser. J'utilise Avalonia pour ça, d'ailleurs, pour faire du WASM.
Enfin, ça
fera plaisir à Laurent. Et donc là-dessus, bah, ça permet de voir le contenu du package. On peut lister toutes les DLL. Si tu double-cliques sur une DLL, en bas, tu as un petit panel avec les informations de la DLL et des symboles associés à cette DLL-là. Et donc, tu as un onglet qui s'appelle Sources. Donc, tu peux voir la liste de tous les fichiers. Là.
D'accord.
Après, là où je dis que ce n'est pas complet, c'est parce que quand les fichiers sont disponibles sur GitHub, par exemple, via un lien, il te met le lien. Quand les fichiers ne sont pas disponibles, bah, tu vois pas le contenu, il ne t'affiche pas le contenu du fichier. Donc là, il y a d'autres tools qui existent. Voilà, par exemple, YellSpy va me permettre de voir le contenu quand les métadatas sont accessibles, où on peut faire un petit peu de code. Savoir que pour parser des fichiers PDB, format portable, principalement, il y a une lib qui est fournie par Microsoft qui marche très bien. Là. Donc, il permet d'aller extraire les fichiers ou de voir leur contenu plus facilement.
Ok, mais ça veut dire qu'il faut... Enfin,
c'est du travail manuel, ouais.
Ouais, c'est du travail manuel. Et puis, c'est sur des... J'allais dire, c'est sur des paquets de nuggets où on a un gros doute, quoi. Enfin, c'est...
Ouais, c'est ça.
Si on fait les références par rapport au package nugget de Microsoft, ce genre de choses.
Exactement. Alors, là, t'es quand même plutôt safe. Ou le Newton Safe JSON, tu sais qu'il est à peu près bon.
Ouais.
Alors, c'est vraiment plutôt pour les packages où t'as des doutes, oui, comme tu dis, ou c'est un nouveau package que tu veux consommer, tu connais pas encore vraiment, tu veux regarder ce qui va correspondre un peu à mes critères de qualité. Donc là, tu peux aller regarder.
Ouais, bah là, j'ai des doutes sur le développeur qui me dit qu'il faut rajouter ce paquet de nuggets, quoi.
Ouais, mais en fait, ce qui est important, c'est aussi que ça permet de fournir des services aux développeurs, ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le PDB te dit d'où viennent les sources, quand tu es en Visual Studio ou Rider, tu fais go to definition, au lieu d'aller décompiler le code, maintenant, il va chercher le vrai fichier.
Ouais.
Parce qu'il a accès au vrai fichier. Ce qui fait que maintenant, tu peux avoir un fichier qui contient les commentaires, s'il y a des dièses if, etc. Tu vois vraiment le fichier original. Ouais. Là, tu viens d'apporter une valeur à d'autres développeurs, quoi.
Oui, Laurent. Le fichier original dans la bonne version, en plus.
C'est ça, ça ne te fiche pas le dernier fichier dans main, là, c'est vraiment le commit qui correspond. Donc ça, c'est le premier service que ça donne pour les développeurs. Il y en a un autre qui est à l'exécution de ton application. Quand tu es en debug, tu fais F5, tu lances ton application. Dans Visual Studio, je ne connais pas Rider à ce niveau-là. Laurent va peut-être pouvoir compléter après. Mais maintenant, depuis quelques versions, dans le Solution Explorer, tu as un nœud qui s'appelle External Sources. Je crois que c'est ça le nom du nœud. Et tu vois toutes les DLL qui sont loadées par ton application. Et quand tu as les symboles, tu peux voir les fichiers sources de cette DLL-là. Tu peux mettre des breakpoints dedans. Et donc, c'est une version qui sont normalement des versions qui sont compilées en release. Donc, les breakpoints marchent comme ils marchent là. Tu peux avoir des petites surprises quand tu fais go to next statement. Ça peut aller un peu plus loin que prévu.
Ouais.
Tu auras du mal à voir le contenu de certaines variables. Mais c'est quand même, quand tu as besoin de débugger du code qui n'est pas à toi, ça te donne une facilité que tu n'as pas autrement. Donc, avoir un bon package avec les bonnes sources dedans, ça te permet d'avoir des services quand toi, tu utilises la DLL après, quoi.
Moi, j'utilise plutôt la navigation, tu sais, la navigation de Rider pour naviguer même dans mon code source, mais dans le code source aussi des assemblées référencées. C'est vrai que j'utilise pas tellement l'espèce de Solution Explorer ou ce genre de choses. Je navigue plutôt et c'est vrai que les breakpoints dans le source code externe, ça existe depuis longtemps avec Rider et c'est un truc que tu utilises vraiment souvent, quoi. Donc,
on fait pas attention des fois. Hein.
Ouais, exactement.
Même pas la question.
Tu te rends même compte, ouais.
Ouais, c'est ça. Ok, mais ça prend que tu as accès aux sources originales pour être capable de mettre des bons breakpoints. Là. Je sais que Rider avait des fonctionnalités via .peak où ils sont capables de régénérer un PDB à partir d'une DLL au besoin.
Oui, ouais, exactement.
Mais là, c'est le code compilé, quoi. Serveur de symbole. Tu peux le voir comme un serveur de symbole, tu l'enregistres et puis il te régénère les. C'est pas parfait non plus, mais ça
peut aider. Non, c'est sur une décompilation du code, t'es plus sur le fichier original, quoi.
Ah, mais ça peut aider, effectivement, comme disait M.
D'ailleurs, Visual Studio a la même chose maintenant. Quand il n'y a pas les sources, il te propose aussi de décompiler pour mettre tes breakpoints. Donc, ils ont réussi à copier ça. Pareil, avec 7-8 ans de retard, à mon avis. Mais ils l'ont fait.
Ils s'alignent sur beaucoup de fonctionnalités, je dois dire.
En même temps, il y a une compétition. Ils ne peuvent pas trop perdre. Donc,
non.
Puis, quand vous faites des packages, en fait, ce qui est important, c'est d'être sûr. Enfin, si vous voulez garantir que vous avez bien mis toutes les bonnes informations, il y a différents tools qui existent. Le premier, déjà dans le SDK, il y a des options à activer, genre Enable Package Validation ou quelque chose comme ça, qui vérifie certaines propriétés de votre package. Et après, il y a aussi d'autres tools, plutôt CLI, qui vont être, par exemple, du Get Package Explorer dont je parlais avant, fournit aussi un CLI qui va valider que les symboles sont bons. Vous avez bien mis les bons symboles dans dans le package. Vous avez mis les bonnes options de compilation, que c'est un build qui est reproductible, etc. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intégrées au UI. Moi, j'en ai un aussi, donc un Mesian to NuGet Package Validation, qui va faire un peu la même chose que NuGet Package Explorer, mais valider aussi les métadatas. Donc est-ce que vous avez bien les repository URL de défini dans le package, ce genre de choses. Donc ça va un petit peu plus loin. Et puis pour tous ceux qui sont sur des repositories type GitHub, GitLab, j'ai oublié les deux autres qui sont supportés par défaut, mais il y a un package qui s'appelle .net.reproducible builds qui en gros vient activer toutes les bonnes options les options principales sont toutes activées comme il faut, dès que vous êtes sur un CI. Ce qui veut dire qu'en gros, bah, vous aurez les bonnes options pour le compilateur, les symboles vont être mis comme il faut, les sources vont être accessibles à la fin. Bref, il s'occupe un peu de tout faire. Là. Donc ça, c'est la solution. Quand vous ne savez pas trop quoi faire, on met le package et en général, ça donne des bonnes choses.
Je l'ai utilisé, moi, la semaine dernière pour justement versionner des containers, des Docker containers. C'est super pratique. Je l'ai utilisé suite à tes articles, justement, sur le sujet. D'ailleurs, franchement, je recommande parce que il y a 2 semaines, j'ai pris une demi-journée pour écrire un nugget. Je n'avais jamais vraiment écrit de nugget. Je n'avais jamais vraiment eu besoin. Et j'ai suivi tes tutoriaux, là. Et franchement, c'est super parce que en très peu de temps, j'avais une build, j'avais tout qui était bien, la doc, tout qui est bundlé. C'est vraiment super facile à suivre. Donc, je recommande fortement. D'ailleurs, je l'ai fait encore ce matin dans un tweet. Recommander ton post.
Ouais, j'ai vu passer.
On s'est fini de se lancer des fleurs, là.
Arrête, ouais, quand ça te parle anglais.
Ok. T'avais d'autres choses à nous rajouter sur les...
Je pense qu'on a fait le tour, là.
Non, je pense qu'il y a juste un truc, mais c'est pas par rapport vraiment à la structure, mais c'est aussi bien choisir les versions de framework qu'on veut utiliser dans les packages Nougat. Parce que des fois, on a des packages qui ne sont pas forcément associés au bon runtime et c'est un peu compliqué après à réutiliser.
J'ai vraiment eu ce problème avec Reactive. Quand je suis passé de .NET 6 en .NET 7, c'est pas super bien fait. Donc, effectivement, c'est vraiment important. J'ai dû même récupérer une partie des sources et le mettre dans notre code base pour la partie Windows. Quoi.
Comme dirait Richard, quoi, tu check les targets
pour être okay. Dans la code base. Et après tu pushes.
Les proutes. Bon.
D'ailleurs, tu vois, Nougat.org, maintenant ils ont changé leur UI pour les frameworks supportés par les packages aussi, pour montrer vraiment les targets qui sont vraiment ciblés par le package, par le node standard, mais ils montrent aussi tous les targets compatibles, en fait. Qui va te montrer que ton package supporte Net 4, 6, 2 et Net 6, etc. Pour voir ce que ça supporte réellement, au moins c'est un peu plus visible qu'avant.
DevDevDev.net. Richard Clark.
Alors, Laurent, toi, c'est la semaine dernière, je crois, qu'il y a eu la première preview de .NET 8 qui a été publiée par Microsoft. Ouais. Et qui a acheté un coup d'œil là-dessus.
Ouais, donc .NET 8, c'est la prochaine version majeure de .NET qui devrait être publiée comme chaque année maintenant en novembre, donc en novembre 2023. Ce sera une version en support à long terme, LTS. Ça veut dire que la prise en charge de cette version sera sur 3 ans. Si on compare à .NET 7, qui est une version à terme standard, STS, qui est prise en charge que pour 18 mois. Enfin, que c'est déjà pas mal, quoi, 18 mois. Alors, la vision pour .NET 8, c'est qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'ils vont chercher à améliorer, en gros ? Qu'est-ce qu'on sait de ça ? Bon, j'ai fait un peu un résumé, hein. Donc, ils veulent avoir la meilleure plateforme et les meilleurs outils pour les développeurs cloud natif. Alors ça, natif nuage, je ne sais pas comment on dit en français, tu m'excuseras, Richard. ils veulent rendre facile aussi l'implémentation de l'architecture microservice, la génération de déploiement et le déploiement de containers. Donc ça, ils avaient déjà commencé sur certaines choses pour les .NET pour les containers dans le SDK et tout ça. D'ailleurs, je prépare un post pour la semaine prochaine sur le sujet. Un gros sujet, Blazor United pour le développement d'interface utilisateur web. Alors, Blazor, on sait que ça a été créé par Steve Sanderson, donc il réattaque avec un nouveau prototype. D'ailleurs, il a fait une bonne vidéo une vingtaine de minutes qui présente un peu tout ça, qui est très intéressante. Alors, pour l'instant, c'est un prototype, mais C'est quelque chose qui va combiner les avantages de Razor Pages, Blazor Server et Blazor WebAssembly dans une seule stack. Ça devrait être inclus dans .NET 8. Ça vous permettra d'utiliser une seule architecture basée sur Blazor pour le rendu côté serveur et l'interactivité complète côté client avec Blazor Server ou WebAssembly. Donc c'est tout au sein d'un seul projet avec la possibilité de passer facilement entre différents modes de rendu et même de les mélanger dans la même page. Donc c'est assez bluffant. C'est un peu ce que font d'autres frameworks comme avec Node.js et JavaScript et toutes ces technos là. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver dans le monde .NET aussi avec Blizzard.
Ouais, mais pour .NET 8, moi je trouve que ça va être un peu chaud patate, quoi. Enfin, je sais pas, je l'ai trouvé un peu
c'est ambitieux. C'est ambitieux. Ouais, on voit que c'est un gars qui délivre quand même pas mal, donc il y a pas mal d'idées. On verra. Ouais. Mais c'est un début, en tout cas. Ils vont continuer à se focaliser sur la qualité, bien sûr, et les performances, comme ils le font depuis quelques releases. Et ils veulent amener une super expérience utilisateur de MAUI avec Blazor Hybrid pour le développement mobile et desktop cross-platform. Donc, comme tu disais, donc si vous voulez aussi, j'ai noté un point, si vous voulez voir un peu plus sur la roadmap, il y a un site qui s'appelle seams.net/roadmap. On mettra peut-être le lien dans le podcast.
Oui, c'est bien.
Qui en fait montre en fait ce qu'ils ont en tête pour la roadmap de .NET 8. Il y a même déjà des points pour, en tout cas le tag .NET 9. Je ne sais pas s'il y a des points, j'ai pas regardé. Mais donc comme tu disais, la .NET Preview 1, elle a été mise à disposition en téléchargement sur le site dot.net pour Windows, Linux et macOS le 21 février. Donc il y a un peu moins d'une semaine. Donc dans cette preview 1, qu'est-ce qui est disponible en tant qu'amélioration? Donc il y a une amélioration dans ce qu'ils appellent ahead of time compilation dans le côté natif. Ils vont vouloir réduire la taille des applications dans ce contexte-là qui permet de compiler du code direct .NET directement en code natif sans passer par un intermédiaire comme le JIT ou l'émulation. Et tout ça dans un seul fichier. Donc, en fait, il présente un exemple. Sur Linux, ils ont réussi à réduire de 50% la taille d'un exe. Alors, pour l'instant, c'est un Windows Hello World, quoi. Mais de .NET 7 à .NET 8 Preview 1, ils sont passés sur Linux de 3,76 MB à 1,84 MB. Et sur Windows, de 2,85 à 1,77. Donc, pour l'instant, c'est juste un Hello World, mais ça montre aussi cette tendance avec... Il y a beaucoup d'outils maintenant qui sont écrits, par exemple, en Go ou en Rust, qui ont des tailles assez petites. Et je pense que tout ce travail à OT, native OT, c'est aussi quelque chose qui va servir, par exemple, pour WASM, WebAssembly et tout ça, c'est des choses qui vont arriver là-dedans, quoi.
C'est bien, parce qu'il y avait une tendance un petit peu générale depuis des années en disant on a de la place sur les disques durs, c'est pas grave si votre Hello World il fait 20 mégas, de toute façon vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir les exécuter. C'est vrai que ça devenait un petit peu absurde, quoi.
Et puis là, 66, ça tient bientôt sur la disquette, hein.
Et si alors, Michel?
Ça tient bientôt sur une disquette, hein.
Bon, si c'est pour dire ce genre de conneries.
non, c'est plutôt pratique. Moi, je vois, je travaille sur un de mes projets, on a une CLI pour travailler, mais c'est vrai que le binaire, il est assez énorme pour ce que ça fait, quoi. On a l'impression qu'on embarque 99% de code inutile dans le binaire.
Ouais. Gérald, tu voulais rajouter?
Bien, en termes de déploiement, tu vois, c'est en .NET Framework, tu prenais, tu buildais, tu avais juste un exe et tu pouvais le copier-coller, là, et c'était assez petit. C'est vrai que depuis .NET Core, quand tu veux déployer une application, soit tu dis aux gens d'installer la runtime à côté, soit tu déploies un binaire qui est super gros, là, qui est en plusieurs fichiers, ouais. En plus. C'est ce que tu as le binaire et tu as le fichier de le JSON à côté, le runtime config, et c'est un mode de déploiement qui n'est pas agréable. Donc, on va espérer qu'avec cette solution-là, ça va être aussi sur ce côté-ci.
Ouais, bon, après, ce qui fait à noter, hein, c'était juste pour être sûr qu'on se comprend, c'est en fait, on va projeter, il n'y aura plus d'IL, de JIT et de trucs comme ça. Hein, c'est vraiment du code natif. Hein. dans ce cas-là.
Ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup d'applications qui ne marchent pas actuellement, parce que dès que tu fais de la réflexion et autres, il y a des chances que ça ne marche plus. Quoi.
Donc, exactement.
C'est pas tout qui est supporté.
Exactement. Et là justement, donc les buts, c'est aussi l'amélioration du temps de démarrage des applications, mais aussi du temps de vie de la batterie, quoi, de moins décharger la batterie, puisque ça va utiliser moins de CPU et ce genre de choses. Alors, comme tu le disais, pour les applications, .NET 7, ils avaient déjà amorcé cette tendance avec le native AOT, qui supportait les applications console, et ce qu'ils veulent amener aussi dans .NET 8, c'est ajouter le ASP.NET Core en minimal API. Ce qui est intéressant, parce que ça va donner des binaires relativement petits qu'on va pouvoir déployer relativement facilement dans des containers de plus en plus petits. C'est un des axes, justement, de progression qu'ils veulent améliorer dans .NET 8 avec cette idée de plateforme et d'outils cloud native. Et dans ce cadre-là, ils vont aussi rajouter le support des architectures x64 et ARM64 sur macOS, donc pour l'Active IoT. Au niveau des images de conteneurs .NET, ils font une mise à jour par défaut des distros Linux vers Debian 12. Ils vont aussi aller sur des images de conteneurs qui seront on appelle ça non-root Capable. Je ne sais pas comment dire. Beaucoup de Docker containers ont des utilisateurs qui sont en route, et c'est ça un problème, un impact de sécurité. Et donc là, ils veulent pousser ça. C'est déjà possible, et ça existe déjà avec certains des containers, mais ça, ils veulent le pousser encore plus. Et une des nouveautés au niveau des containers aussi, c'est un support de Linux amélioré avec les containers Alpine et le support des ARM 64, comme sur le macOS, quoi, avec l'IoT. Donc il y a plein de sujets qui se recoupent, hein, et qui vont un peu dans une super direction, j'ai envie de dire, pour tout ce qui est cloud, tout ce qui est WASM et tout ça, containers. .NET 8 comprend de nombreuses autres fonctionnalités et améliorations qui sont prévues au cours en cours de développement. Et par exemple, certaines d'entre elles sont des améliorations de la sérialisation avec le système .text.json. Donc ça, il y a déjà dans la preview 1, il y a déjà quelques améliorations qui sont listées. D'ailleurs, il y a une page sur leur site Learn où ils vont mettre à jour au fur et à mesure toutes les nouveautés qui sont ajoutées preview par preview. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a le blog post aussi, mais ça, c'est pas mal. Dans la preview 1, ils ont rajouté des méthodes pour travailler avec tous les avec ce qui est éléments aléatoires, et gérer le côté aléatoire des choses. Des nouveaux types axés sur les performances et des améliorations de la génération de code et de la compilation juste à temps, le JIT. Alors là, le prochain point, ne me demandez pas ce que c'est, parce que franchement, je ne sais pas trop, mais j'ai pas le temps de chercher. Le support des extensions AVX-512 ISA. Alors j'imagine que c'est des trucs de parallélisation sur les GPU ou des trucs comme ça, pas trop sûr.
Non, c'est sur les CPU, en gros c'est tout ce qu'on appelle des SIMD, Single Instruction Multiple Data. Là.
Des extensions
c'est clair là,
c'est mieux. C'est des instructions compilateurs.
Ouais, c'est des instructions compilateurs où, en gros, tu peux, sur un seul, core, tu es capable de paralyser des opérations. Et en gros, aujourd'hui, .NET supportait les instructions de jusqu'à 256 bits. En gros, donc tu peux faire, par exemple, un 256 bits, ça te permet de faire des additions de 8 int. Là, ils vont supporter les instructions 512, donc 512 bits, donc qui permettent de faire d'améliorer le parallélisme, en gros. Potentiellement gagner un peu en perf.
Et il y a des améliorations aussi de l'optimisation guidée par le profil, ce qu'ils appellent PGO, et des mises à jour d'ASP.NET Core, telles que les API minimales, le rechargement chaud et le streaming signaler. Et un truc dont tu as parlé, Gérald, avant, le .NET Publish et .NET Pack, que j'ai listées parce que c'est quand même incroyable. Qui passe, les commandes passent en mode par défaut en release. Et donc, on n'aura plus de trucs
ouais, en débug. En mode débug ouais.
Voilà ce qui se passe sur .NET dans la prochaine version.
Alors, moi, je voulais rajouter juste un petit truc là, au niveau de Team of .NET, là, le site dont tu as parlé tout à l'heure, là. On mettra le lien dans les notes de l'épisode. C'est un site qui est généré automatiquement. Hein. Et à partir de tout ce qu'il y a dans leur truc GitHub, là, je crois, c'est généré automatiquement. C'est pas quelqu'un qui est là,
alors,
qui rajoute des lignes au fur et à mesure.
C'est basé sur les labels, etc., sur les issues GitHub.
Avant de passer la parole à notre cher Olivier, moi je voulais parler de Visual Studio 2022, oui, qui est passé en version 17.5, c'est ça. Juste pour dire qu'il y avait un certain nombre d'améliorations qui ont été ajoutées, qui sont assez intéressantes. Il y a une première qui est la recherche tout en un. Donc, qui permet de faire, quand on fait un CTRL-T, de faire de la recherche de fichiers, mais d'avoir une prévisualisation de la trouver. Il y a une amélioration des performances. Alors ça, je ne comprends pas pourquoi ça n'existait pas avant. C'est-à-dire que si vous avez une solution avec de nombreuses DLL, de nombreux projets à l'intérieur, quand vous faites la compilation, eh ben, il va recompiler que ceux qui sont véritablement nécessaires. Et donc, ça permettra d'avoir un gain au niveau des performances, au niveau de la compilation, le débugage de votre application.
Ça, Attends, Richard, oui. J'ai juste deux ans. J'ai demandé sur Twitter à un des gars qui postait là-dessus sur Visual Studio. Et en fait, parce que je connaissais comment ça marchait sur Rider, et en fait, ça va marcher de la même façon. C'est-à-dire que si tu vas changer une API, l'implémentation en interne d'une API, il ne va pas recompiler toutes les dépendances. Si tu changes l'interface, bien sûr, il va recompiler les dépendances, mais si tu changes juste l'implémentation, il ne compilera pas toutes les dépendances. D'où un gain aussi en perfois.
Ensuite, on a la publication dans des containers qui est facilitée. Je ne me souviens plus comment c'est ngrok. Donc l'application ngrok qui permet de faire du tunnel de développement, donc qui permet de notamment quand on fait du développement d'applications pour Microsoft Teams, de permettre d'avoir un site extérieur qui peut appeler votre localhost directement. Et donc là maintenant on a l'outil directement intégré à l'intérieur de Visual Studio et on n'aura plus besoin de passer par ngrok. Je pense qu'ils ne vont pas être très contents de leur côté de cette nouveauté. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Oui, il y a de l'édition des Markdown qui maintenant est supportée. Et puis ensuite, il y a une fonctionnalité que je n'ai pas réussi à faire fonctionner, qui est l'ajout rapide de fichiers. Donc, au lieu de passer par le menu où on cherche où est-ce que c'est que. Moi, je vais rajouter une classe de type, une classe bête et méchante, pour aller dans le menu qui est un petit peu compliqué. Et là, on peut y accéder beaucoup plus rapidement. Et même rajouter des fichiers dont les extensions ne seront pas connues par les studios comme le gitignore ou ce genre de choses. Donc voilà, concernant Visual Studio 2022, édition 17.5. Vous aviez vu d'autres choses, vous?
Non. Non, ça fait que 15 ans que ça existe en ReSharper et Rider. Ouais.
Oui, il y a beaucoup de choses qui... Donc du coup, comme moi j'ai ReSharper... Bon...
D'ailleurs, en parlant de 15 ans, j'ai vu un truc passer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les 15 ans du Visual Studio 2008. Ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Première version avec Link. Hein.
Et on va passer maintenant la parole à notre cher Olivier, qui, lui, voulait nous parler du sujet qui est à la mode en ce moment, c'est-à-dire de ChatGPT.
Oui. Chat GPT pour éviter le GPT.
Ouais.
Ouais, c'est sûr qu'à moins d'avoir été dans une cave enfermée, séquestrée, sans internet depuis quelques temps, forcément, on a entendu parler de Chat GPT. Donc, il y a pas mal de choses à en dire, parce qu'on peut se poser des questions. Quand on voit certaines démonstrations, quand on l'essaye soi-même, il y a un effet « waouh », ça c'est une évidence. Je veux dire, il y a plein de choses. Et je posais la question de savoir, bon, bah, s'en servir pour développer, est-ce que c'est faisable d'abord? Et puis, est-ce que c'est de la triche? Est-ce que c'est une vraie aide? Ou est-ce que c'est de la perte de temps? Et en réfléchissant à tout ça, en fait, on s'aperçoit d'abord que il y a d'autres services du même genre qui apportent de l'intelligence artificielle et qui peuvent être utilisés. Et j'en ai parlé dans une conférence à la création du mug de Nantes. Donc ça date d'il y a 6 ans, donc c'est pas récent. Ce sont les cognitive services de Microsoft. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît, mais les cognitive services, c'est un ensemble de briques de construction en fait qui se charge d'analyser du langage naturel aussi, qui se charge d'analyser des photos, de vous donner l'âge d'un type en fonction de celle la photo, de pouvoir faire de l'identification de personnes, etc. Il y avait Uber à l'époque qui avait utilisé ça pour sécuriser ses taxis, en fait. C'est-à-dire que pour être sûr que le type, avant qu'on lui donne l'adresse du prochain client, un code secret ou n'importe quoi, c'était trop facile, quoi. N'importe qui pouvait lui mettre un flingue sur la tempe et lui demander, et puis prendre sa place et puis aller agresser la personne qui allait être prise ou n'importe quoi. Et ils avaient fait tout un truc avec les connectives services qui permettaient justement de demander à la personne, par exemple, de se prendre en photo, mais ils lui demandaient d'abord deux ou trois trucs, par exemple de faire une tête triste ou de faire une tête gaie ou de sourire, etc. Et comme on a de la reconnaissance de sentiments, de la reconnaissance, etc., on pouvait savoir si le type était là ou pas. Bon, ça, c'était intéressant. Donc, ça existe toujours, bien évidemment, et c'est plutôt des briques de construction qu'on va mettre dans une application. Alors, ChatGPT, de l'autre côté, c'est au départ, bon, ben voilà, c'est un chat, donc on discute, etc., c'est sympa, c'est rigolo. Et puis, il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des API qui sont derrière et qui vont être, et qui sont vendus aussi, je veux dire, comme les cognitive services, et qu'on va pouvoir s'en servir. Donc, le savoir si on peut se servir de ChatGPT pour développer, il y a deux aspects, puisqu'il y a un aspect conversationnel dans le ChatGPT qui n'existe pas avec les cognitive services. D'abord, ça ne porte pas forcément sur la même chose, mais il y a cet aspect discuter avec. Bon, bah ça, il n'y a que ChatGPT qui va pouvoir l'apporter. Le côté API, ça existe dans les deux. Et on va pouvoir, dans les deux, avoir quelque chose d'assez semblable, puisque c'est de l'API RESTful, on a de l'accès en C#, on a utilisation d'IA dans les deux cas, etc. Mais il y a des différences. Les différences majeures dans ces API, il faut les comprendre. C'est que autant dans le système Microsoft, on a vraiment des blocs bien séparés pour la vision, pour le traitement de la voix, reconnaître la voix de quelqu'un, par exemple, pour reconnaître une commande vocale et l'associer à une action ou des choses de ce genre-là. ChatGPT, au départ, bon, bah, il discute, quoi. En fait, c'est un générateur de texte, en fait. Hein. Je veux dire, c'est en fait un blablateur, quoi. Hein. Il donne une illusion de discuter avec un humain. Il passe quasiment un test de Turing convenablement, mais et qu'est-ce qui est derrière? Et en fait, donc il y a deux axes. Utiliser ChatGPT comme les cognitive services, c'est-à-dire au sein de ces applications, et celui d'utiliser ChatGPT comme un moyen d'écrire du code ou de se faire aider en mode conversationnel. Quoi. C'est vraiment deux choses différentes. Alors le premier cas, il me semble assez évident, c'est-à-dire que pouvoir rajouter des services qui rajoutent de l'intelligence à une application, ça peut qu'améliorer l'UX, ça peut qu'améliorer les choses. Et puis il y a ce deuxième cas d'utilisation très spécifique à ChatGPT, lui, qui est ce mode conversationnel, qui est à la fois épatant, et puis on peut se demander justement là si c'est une aide, si c'est de la triche, ou si c'est vraiment une perte de temps. J'ai vu des choses assez extraordinaires. J'ai vu une démo il n'y a pas très longtemps là, sur YouTube. Alors on est en podcast, de toute façon on ne peut pas faire voir de choses à l'écran, mais ce n'est pas grave, vous allez me croire sur parole, et puis vous irez chercher. Mais il y a un type, par exemple, qui a demandé à ChatGPT, « Imagine you are a SQL server ». Et à partir de là, en fait, ChatGPT s'est comporté comme un serveur SQL Microsoft, je veux dire, et le type a pu créer des procédures stockées, il tapait plus des demandes conversationnelles d'humains, mais il faisait des execs des procédures qu'il avait en passant des paramètres, Et le truc crée, il a créé une table, il a mis des informations dedans à l'aide de sa procédure stockée, et ça répondait vraiment complètement. Donc ça simulait un environnement, alors qu'il bon, voilà, il se comportait comme un serveur SQL, c'était très très rigolo.
Mais il y a Laurent, Laurent tu voulais dire quelque chose ?
Ouais, je voulais juste pas interrompre. Mais en fait, il y a cette histoire de contexte, c'est quelque chose qui est très important avec ChatGPT. Bien sûr, ouais. Et il y a un super GitHub repository où ils listent plein de contextes comme ça et comment les donner. Il existe, comme tu disais, pour SQL, mais par exemple pour le shell, pour je suis un traducteur, je suis un blog poster ou ce genre de choses.
Ouais. Et on a même des extensions Chrome qui existent aujourd'hui et qui te préformatent des requêtes, ou en tout cas qui contiennent des templates. Et parce que c'est le truc qui va aussi loin, c'est qu'on peut même avoir des templates, par exemple, pour générer des images sur Midjourney, par exemple. Ça devient sympa, quoi, généralement. Et j'ai une tentative d'article comme ça où c'est en fait je l'ai fait écrire entièrement par ChatGPT et les illustrations par Midjourney, quoi. J'ai un pouvoir jusqu'où on pouvait aller. Donc il y a cette tentation d'utiliser. Alors j'ai demandé à ChatGPT, quelles étaient les différences qu'on pouvait avoir et s'attendre entre lui et par exemple les Cognitive Services, parce que c'est quand même les deux grands concurrents. Alors il m'a dit des choses intéressantes. J'ai trouvé que c'était assez amusant, je vais tout vous lire, mais il dit par exemple que les Cognitive Services de Microsoft offrent une gamme de services intelligents, machin, blablabla, c'est baratin. Mais il dit, c'est comme si vous aviez un majordome personnel qui vous aidait à comprendre le monde qui vous entoure, mais attention, comme tout majordome, il peut être un peu rigide et manquer de spontanéité. Et c'est un peu vrai des Cognitive Services. Il dit, d'un autre côté, il y a les API de ChatGPT. Imaginez un ami virtuel qui est toujours là pour vous écouter et vous aider. Quels que soient vos problèmes, vous pouvez lui poser des questions sur n'importe quel sujet, il vous donnera une réponse rapide et précise. C'est comme avoir un génie de la lampe à portée de la main, mais attention, comme tout ami, parfois il peut dire des bêtises et vous donner des réponses farfelues. Et j'ai trouvé qu'il était très gentil avec Microsoft et qu'il était assez dur avec lui-même, mais assez réaliste. Parce que c'est un peu le problème de ChatGPT, c'est que vous lui demandez sur la vie d'une personnalité, il va vous inventer un nom de naissance qui n'a rien à voir, alors que tout le reste de la bio va être exact. Ou vous allez lui demander quelque chose sur un fait historique, il va vous donner un truc qui va être parfait, mais il va inventer une bataille avec une date ou n'importe quoi, ça n'a rien à voir, ça n'existe pas dans la réalité. Et la question qui se pose, en fait, quand on utilise ChatGPT de cette façon-là, et ça peut aller très loin, parce que j'ai essayé, par exemple, de lui faire des choses, de poser des questions de développeur pour avoir un bout de code, par exemple, qui fait un truc, puis je lui ai dit, c'est pas mal comme code, mais est-ce que tu peux m'ajouter le support de MVVM dedans ? Et il l'a fait. Je lui ai dit, mais est-ce que tu peux me modifier le code pour qu'il gère de l'injection de dépendance en posant des questions comme ça ? Et il l'a fait. Donc, on peut aller très loin. C'est très amusant, c'est excitant. Bon, c'est une nouvelle technologie en plus, donc c'est sympa. Mais il y a ce problème que des fois, les réponses sont erronées, voire farfelues, comme il le dit lui-même. Et donc, de savoir comment on va s'en servir. Et si c'est pour s'en servir comme d'un super Google, on va dire, c'est effectivement une aide qui peut être précieuse parce que c'est une façon d'avoir des réponses. Il est capable de résumer. On peut lui demander de résumer des articles ou de croiser des articles, de les traduire aussi. Donc on peut avoir en français pour Richard, par exemple, un résumé d'un article anglais. On peut avoir des tas de choses de ce genre-là, donc ça c'est super. Et puis la question qui va se poser, c'est effectivement, la plupart du temps c'est une perte de temps pour une raison simple. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte assez vite, et je pense que ceux qui l'ont testé s'en sont rendus compte, c'est qu'indépendamment des erreurs qu'il va faire, enfin, en même temps, c'est à cause de ces erreurs-là, c'est-à-dire que quand il dit quelque chose sur un sujet, sur un domaine quelconque, donc en informatique, par exemple, sur du développement, je me suis rendu compte que si tu n'avais pas le niveau pour écrire le code que tu demandais, en fait, tu n'avais pas le niveau pour essayer de voir qu'il y avait des erreurs dans le code qu'il te donnait. Quoi. Donc, du coup, si tu as le niveau, tu n'as pas besoin de lui demander. Quoi. Alors, ça peut être une petite aide à la marge où tu lui demandes de te générer vite fait, bien fait. Tiens, fais-moi un truc en MAUI qui permet d'envoyer un SMS, comme ça t'évite de chercher sur Stack Overflow. Mais en fait, il faut plutôt le comprendre comme une espèce de sparring partner, en fait, pour Richard.
Michel, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, quand tu disais Super Google, c'est pas un peu ce qu'a sorti Microsoft, là, je crois que c'est dans une preview privée de Bing.
Oui, j'ai accès de...
T'y as accès ?
Ouais.
Ils ont un peu mélangé
j'ai accès
ça avec
depuis
de la recherche.
Ouais, mais ils ont été obligés d'arrêter pas mal de choses aussi. Et puis, même ChatGPT, donc pour l'instant, ça se stabilise. la dernière de chez Microsoft était devenue nazie, donc bon, il se méfie. Quoi.
Mais je suis d'accord sur le côté, c'est utile que si tu comprends ce qu'il dit, parce que c'est, bah un, oui, peu le, c'est un peu ce qu'on a finalement avec Copilot, puisque le code qu'il écrit, il faut quand même savoir le lire. Mais ouais, c'est vrai que des fois, on a du code qui est un peu de la plomberie à écrire.
Ah oui, c'est ça le problème.
Je suis bien content d'avoir quelqu'un qui t'écrit pour toi. Je devais faire un diagramme sur un écran. J'avais quatre colonnes pareilles. J'ai fait la première. Il a compris que je voulais faire. Et j'ai... ça m'est bien tapé.
Donc, ça peut être des aides ponctuelles. Mais en faisant, par exemple, ces autres colonnes, par exemple, si c'était déjà GPT, il pourrait très bien en avoir fait deux correctes. Et puis la troisième, avec oui, un truc farfelu dedans. Quoi. Donc, il faut vraiment avoir le niveau. Et du coup, en fait, puisque tu as le niveau, c'est un peu gâché. Et puis, voilà, tu veux parler? Vas-y.
Moi, je vais dire au revoir, je crois.
Ah, non, 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 je voulais juste parler.
Laurent et après Jérémy. Parce que Jérémy, ouais, qui voulait dire quelque Jérémy chose.
Ouais, non, je voulais dire que, effectivement, moi j'ai accès à Bing depuis deux semaines. Là. D'ailleurs, je l'ai utilisé pour préparer le truc sur .NET 8, même si je l'avais lu en anglais. Je lui ai demandé de me résumer qu'est-ce qu'il y avait dans la .NET 8 Preview 1 et de le faire en français pour Richard. Et ça marche plutôt pas mal, quoi. Donc, tous ces outils, c'est juste des aides. C'est pas juste la vérité. C'est comme quand on va chercher une réponse dans Stack Overflow. Ouais, si on pareil comprend pas de quoi ça parle, c'est quand même vérifier les choses, quoi.
Il faut le considérer, effectivement, comme un collègue ou Stack Overflow à qui on va pouvoir poser des questions. Il va vous dire des trucs qui peuvent vous donner, vous sortir de la panade, d'avoir une idée qu'on n'aura pas eue. Mais il faut jamais oublier que c'est pas la vérité pure et que ça peut, coincer. Donc, en fait, il y a une espèce de paradoxe, quand même, dans le chat GPT, c'est que c'est pas le Graal, c'est pas la lampe d'Aladin. Et la plupart du temps, en fait, ce qu'on lui demande, en fait, il faut avoir le niveau pour le faire. Parce que sinon, c'est comme les traductions. Hein. Les traducteurs, ouais, si tu donnes un truc à un traducteur et que tu te contentes de dire, voilà, j'ai traduit mon texte en allemand, si tu causes pas allemand, je veux dire, et quand tu le causes, tu t'aperçois qu'en fait, il y a quand même des boulettes. Hein. Ça veut pas dire la même chose. Et pareil pour toutes les langues. Donc là, c'est pareil. Si t'as pas le niveau, en fait, bon, bah, y a un côté un peu inutile, puisque si t'as le niveau, tu peux le faire toi-même. Mais il y a ce côté, bon, sympa, et puis ça donne des fois des idées intéressantes. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur du chat GPT ou pas? Je crois pas. Est-ce que ça va remplacer les MVP dans pas longtemps? Pour écrire des applications, j'y crois pas. Même un développeur de base, j'y crois pas non plus. On n'y est pas encore. Mais quand on est passé des cognitive services à chat GPT en 6 ans, qu'est-ce que ça sera dans 6 ans ou dans 10 ans? Je veux dire, il y a certainement une évolution. Il y aura certainement des tas de choses et ça va être un monde surprenant. Il y a des gens qui ont peur de ça. Et ma réponse, et c'est un vieux truc, hein, parce que en fait, c'est la peur des robots en général. On pensait pas à IA désincarnée, on pensait à robots avant qui avaient forme humaine, machin, etc. Mais depuis au moins 40 ans, quand on me pose la question, quand quelqu'un m'exprime qu'il a peur des robots, je veux dire, ou pas, je leur dis, mais vous avez jamais pris le métro à Paris aux heures de pointe? Moi, je vois que ça, des robots intelligents. Je veux dire, et des fois, ça fait peur, donc je préfère prendre ma voiture. Et puis des fois, je me mêle à ça et je suis un peu absorbé, un petit peu effectivement comme les Borg de Star Trek. Je veux dire, on se retrouve assimilé. Je veux dire, mais c'est pas plus risqué en fait, c'est pas plus dangereux. Tant qu'on leur donne pas, comme dans Wargame, le contrôle des armes nucléaires, parce qu'en ce moment, par exemple, ça pourrait chauffer.
Alors moi, il y a une autre chose que je voulais rajouter là pour conclure un petit peu sur ChatGPT. Il y a Microsoft qui va ouvrir via des API justement à ChatGPT. La problématique que je me pose, c'est à quoi ça va servir. Parce que si on considère, je ne sais pas moi, par exemple, une société, on va dire Air France, et qui veut créer un bot qui utilisera ChatGPT pour répondre aux questions du client, le problème, c'est le contexte des réponses qu'il doit donner, mais qui doit être associé à une base de données d'Air France, par exemple. Pour avoir des réponses qui sont pertinentes, il faut qu'il y ait quand même ces données qui soient injectées à l'intérieur de
la réflexion de ChatGPT. T'as raison, moi. Bien sûr, traiter ce sujet-là en quelques minutes, c'est plutôt un petit avant-goût, parce que c'est un sujet là qui court, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Par exemple, donner des exemples de code, etc. Les cognitive services, par exemple, tu les entraînes. Tu entraînes le modèle, par exemple. Quand tu as quelque chose de conversationnel, tu entraînes le modèle. Dans ChatGPT, en fait, tu as...
Hop là.
Et c'est ChatGPT qui t'appelle.
Jérémy, c'est ta chance. Je ne veux pas le couper. Non, non, mais
Non, vas-y, c'est bon, il est au téléphone.
Je vais rebondir sur ce qu'il dit, parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il y a déjà une communication de Microsoft par rapport à l'implémentation de la partie, ce qu'ils ont appelé effectivement GPT dans Azure. Mais en fait, ils ont clairement dit que ça allait fonctionner en termes de gestion des données d'apprentissage sur le même principe que les Cognitive Services avec nos données à nous et notre gestion à nos données. Donc là-dessus, ils ont déjà été assez clairs. Et il y a aussi cette notion de contexte dont parlait Laurent, qui, je pense, au niveau de toute la partie Cognitive Services, enfin moi, pour l'avoir déjà fait avec Microsoft, j'ai fait une conf, on présentait des usages orientés accessibilité. Il se trouve que ChatGPT, en tout cas, la techno qui est en dessous est très très bien faite pour faire l'accessibilité. On peut imaginer des scénarios un peu fous. Enfin, moi, j'ai déjà présenté Cognitive Services, des possibilités, par exemple, pour un professeur aveugle, de faire un cours et de savoir s'il y avait un troublion à droite ou à gauche dans sa salle. Tu lui faisais des doigts d'honneur ou autre, pour être un petit peu vulgaire, mais on peut imaginer ce genre de choses, sachant qu'en plus, avec le côté conversationnel, on peut aller beaucoup plus loin.
Là, il y a un super post de la CTO de ChatGPT qui donne un cas concret dans l'éducation que j'ai trouvé franchement génial. C'est aujourd'hui, les jeunes, ils sont en cours, ils sont une trentaine, voire plus en classe. Pour un prof, c'est impossible de faire un cours particulier. Et donc, elle disait qu'un des cas d'utilisation, ça pourrait être justement d'utiliser des outils comme ça pour que l'élève puisse poser des questions relativement précises à l'IA qui va l'aider dans son apprentissage. C'est une des utilisations que j'ai eu de ChatGPT, par exemple, pour apprendre un peu d'autres langages là que j'ai commencé à apprendre. Et franchement, ça marche vraiment pas mal, quoi. Et je trouve ça, c'est une super idée, quoi.
Donc, concernant ta question sur le contexte, je veux dire, il y avait donc dans les Cognitive Services des modèles d'IA qu'on entraîne, mais quand tu as les API ChatGPT, en fait, tu as aussi, puisqu'elles s'interrogent de la même façon en API RESTful, je veux dire, tu peux passer, en fait, des contextes aussi longs que nécessaire, et tu vas lui donner, par exemple, quelqu'un qui vend des pizzas, par exemple. Il va pouvoir rentrer en fait toute la liste de ses pizzas avec tous les ingrédients qu'il y a dedans. Et quelqu'un va pouvoir poser une question du genre « je veux une pizza, mais je suis allergique aux noix, par exemple, ou aux anchois. » Et donc, grâce à ça, il va pouvoir brasser l'information. Mais effectivement, il y a un contexte, et ce contexte, tu lui donnes exactement comme on entraîne les Cognitive Services, on entraîne leurs IA. Là, tu passes directement le contexte avec toutes tes informations. On peut supposer que sur des trucs très lourds avec des milliards d'informations, ça pourrait être compliqué, mais je suppose que là, tu les appelles, en fonction du chèque en millions de dollars que tu leur donnes, ils te trouveront la solution. Mais pour des applications plus simples, bon, comme on peut développer dans du LOB, un line of business, pour faire plaisir. on a souvent un ensemble de données relativement quand même, relativement restreint, ou même un catalogue de produits, ça ne va jamais chercher bien longtemps. Donc, ça marche comme ça, en fait.
Jérémy ?
Justement, j'aime bien l'exemple qu'il donne Olivier, parce que moi, j'ai fait un des premiers tests que j'ai fait avec Bing, justement, c'était de lui poser des questions sur le soft sur lequel je travaille professionnellement. Et au bout de deux échanges, vu que nous, c'est essentiellement la fonction publique, j'avais vraiment le Bing qui était en train de me vendre des licences. Hein. On me demandait est-ce que je veux du SaaS, est-ce que je veux du PaaS. Excellent. C'est parti très très vite, hein. Trois échanges, pas plus. Hein. Donc vraiment, ouais. C'est vraiment intéressant ce niveau-là.
Et puis, par rapport à ce que je disais au tout début de l'épisode, il y a une chose quand même qu'il faut noter, c'est que tu peux lui parler en français.
En franglais,
et, ah oui.
En franglais aussi.
Mais ce qui est marrant quand tu fais ça dans Bing, justement, c'est qu'il te met un peu les étapes que tu es en train de faire quand tu fais ta recherche, les premières lignes, translate your question.
Ouais.
Et après, il fait la query et après, il te donne les résultats. Donc, tu peux écrire en français, mais il a traduit quand même.
Mais même sur la traduction, il est fort hein, parce que tu mélanges des termes en français et en anglais et il arrive quand même à te prendre une bonne question en anglais.
Ouais. Non, il a un niveau de compréhension quand même qui est quand même très, très, très épatant. C'est ce qui
ça, la mid-journée aussi, j'ai demandé des trucs en français, mais il a compris. Donc, je trouve ça bien fait leur modèle.
Moi, j'ai trouvé le truc le plus bête en fait, c'est qu'il m'a fallu un temps pour comprendre qu'en fait, il comprenait le français. Voilà. Je suis allé comme un bœuf, je posais tous mes trucs en anglais, puis quand j'ai commencé à voir qu'il arrivait à parler français, j'étais ouf, d'accord.
Ouais, comme on dit, le problème, c'est ce qu'il y a entre le clavier et la chaise, quoi.
Ouais.
Bien. Bon, bah, pour finir sur ces bonnes paroles, eh bah, écoutez, merci à vous tous. Et puis, bah, à une prochaine fois.
À la prochaine.
Salut, ciao. Tout le monde.
Salut.
Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée ou nous contacter sur Reddit ou via Twitter @devdevdev.net. Portez-vous bien et rendez-vous au prochain pull request.